Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on part à la rencontre d'un homme qui a choisi de faire le chemin inverse de celui de ses parents et de contribuer à la construction de son pays d'origine. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Ilyas Chami, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de Femme d'aujourd'hui. Comment ça va Ilyas?
Écoute, ça va super bien, merci. Et merci à vous de me recevoir aujourd'hui dans votre émission.
Ah ben, c'est un plaisir de vous recevoir justement. Alors, corrigez-moi si je me trompe Ilyas, mais vous, vous avez grandi en Belgique, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Et vous êtes revenu vous installer au Maroc?
Exactement. Donc, je suis né en Belgique, j'ai étudié en Belgique, j'ai travaillé, je me suis marié en Belgique et je suis revenu au Maroc en 2011.
Ok. Alors, justement, qu'est-ce qui fait revenir à son pays natal?
C'est mon cheminement personnel et surtout aussi par rapport à mes enfants pour qu'ils redécouvrent leurs origines, qu'ils apprennent la langue aussi, leur culture. Et donc voilà, c'était aussi un challenge pour moi et pour ma femme et moi. Mm. Et donc on s'est lancé et voilà. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 12 ans qu'on est à Tanger et très content d'y être.
Mais alors justement, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui encourage, de la même manière peut-être les parents ont fait le chemin inverse et ça coûte émotionnellement, est-ce que ça coûte émotionnellement de revenir?
Ça coûte énormément du point de vue familial, parce que bien sûr nous aussi voilà, on a quitté nos parents, on a quitté notre famille, nos amis. Mais d'un autre côté, très content et on ne regrette vraiment pas. Mm. Parce que le cadre de vie, la qualité de vie au Maroc, elle est exceptionnelle, comparée avec la Belgique où j'étais. Et alors, il y a énormément à faire aussi au Maroc. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on a fait un petit peu le tour. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est très restreint. Tandis qu'au Maroc, c'est vraiment, je ne vais pas dire un terrain vierge, mais il y a énormément à faire. Et comme on est dans l'entrepreneuriat, ben voilà, ça nous a motivés et on s'est lancé.
Alors justement, une fois revenu,
oui.
Si on devait parler du top 5 des meilleures expériences et le top 5 des pires expériences, ça serait quoi? On commence par le top 5 des pires expériences, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes dans le positif. Qu'est-ce qui n'a pas marché en arrivant ici? Qu'est-ce qui vous a dérangé?
Ça ne m'a pas vraiment dérangé, mais il y a eu un temps d'adaptation. Mm. Parce qu'au début, on est arrivé avec une certaine mentalité.
Laquelle, justement?
On ne sait pas. Ben justement, on vient avec une mentalité qui est autre et on oublie qu'on doit s'adapter, comme on s'adapte dans n'importe quel pays. On ne va pas changer les mentalités, c'est nous-mêmes qui devons faire un travail sur nous-mêmes et revoir notre manière de faire, notre manière de penser. Et donc, ça a mis un petit peu de temps, mais grâce à Dieu, voilà. Heureusement que je n'ai pas entrepris d'activité commerciale jusqu'en 2015. Donc, j'ai attendu 4 ans et justement, ça m'a donné le temps de pouvoir m'adapter, de pouvoir me familiariser avec l'environnement, avec la mentalité locale. Et donc voilà, je veux dire, il n'y a pas vraiment de pire expérience.
Ouais.
C'était surtout le temps d'adaptation.
Alors ça, c'est un point quand même important, si on peut creuser. Vous dites, vous êtes arrivé en 2011, vous avez démarré votre entreprise en 2015.
Oui.
La première, c'est ça. Et vous dites, heureusement que j'ai fait ça parce que j'ai pris le temps de m'adapter. Alors souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'on rentre avec un projet et on rentre pour le lancer. Est-ce que vous pensez que ça peut être dangereux?
Oui, ça peut être dangereux. Moi, j'ai eu la chance parce qu'on a déjà une chaîne de restauration en Belgique. Donc, ça m'a permis de pouvoir continuer mon travail à distance. Sans devoir avoir une activité professionnelle sur place.
Ouais, ouais.
Voilà, exactement. Mais effectivement, si on ne prend pas le temps, et j'en connais d'ailleurs dans mon entourage, qui sont venus directement s'installer au Maroc, débuter un projet, débuter un commerce, entreprendre, et qui malheureusement ont arrêté leur activité et sont même retournés vivre dans leur pays, je veux dire de là où ils venaient, quoi, de Belgique ou de France, etc. Mm. Donc là, c'était un échec.
Justement, qu'est-ce qui se passe quand ça foire ? Ça foire pourquoi ? On ne connaît pas très bien la culture, même si c'est la culture de ses parents, bien sûr, sa culture d'origine. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas bien ? Qu'est-ce que n'ont pas bien géré ces personnes, selon vous ?
C'est surtout le contact humain. C'est celui qui revient souvent, c'est le contact humain, c'est la manière de penser. Un bête exemple, je veux dire ici, quand on a certains rendez-vous, etc., c'est vrai qu'on est un petit peu plus laxiste. On a l'habitude, quand on dit on a rendez-vous à 8h, ben c'est 8h, et ça va être 8h10. Et c'est ce genre de petits détails-là, l'un derrière l'autre, qui font qu'il y a un certain lassement. On fait vite confiance aussi. Après, je ne dis pas que ces personnes, quand ils sont venus s'installer au Maroc, ils avaient un certain idéal et ils croyaient que tout était beau, tout était joli. Mais non, c'est comme on s'installe dans n'importe quel pays. Il faut faire attention, savoir où on met les pieds et aller étape par étape.
Il y a justement cet idéal du retour du pays d'origine. On se dit, ça peut qu'être parfait, ça joue des tours parce que, comme vous dites, c'est un pays comme les autres. Il y a le bon et le moins bon, il y a les gentils et les moins gentils. Et ça c'est dangereux d'avoir cet idéal ?
Oui et non. C'est dangereux parce que voilà, on peut arriver à un échec. Or que le but premier, c'était pas d'avoir un échec. Au contraire, c'était de s'installer et de pouvoir continuer sa vie dans son pays d'origine ou dans un autre pays. Et donc, de ce côté-là, oui, ça peut être dangereux. Par contre, l'analyse que ma femme et moi avons fait avant de s'installer, c'est vraiment peser le pour et le contre. Donc, prendre une balance, mettre le pour et le contre de là où on était, vers là où on venait. Et de se dire, est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine ? Mais ça valait largement la peine.
Est-ce que, justement, ça remue le couple de changer de pays, de lancer, de démarrer une nouvelle vie ?
Bon, ça ne remue pas le couple. Au contraire, je pense que ça le renforce. Parce que voilà, c'est une expérience de vie, c'est une expérience qu'on partage. Avant ça, on avait essayé 3 ans dans un autre pays, justement. Donc le fait de venir au Maroc, là, on a vraiment retrouvé notre culture, on s'est senti chez soi directement, même s'il a fallu qu'on s'adapte. Et les enfants aussi se sont plus directement à l'école. Donc, au contraire, c'est une expérience de vie, je pense que ça renforce le couple. Donc non, ça l'a remué, oui, mais dans le bon sens.
Ok, parce que justement, certains ont peur de ça, ont peur par rapport aux enfants, donc on va dire que pour vous, l'expérience est positive.
Pour moi, elle est positive. Moi, je suis quelqu'un qui adore les challenges, donc c'est vrai que j'avais beaucoup moins d'appréhension, j'avais beaucoup moins peur. Ma femme avait quand même plus de réserves.
Ouais.
Mais bon, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elle a goûté à la vie marocaine, à la vie au Maroc, et elle adore la qualité de vie et elle ne pourrait pas changer.
Elle est d'origine marocaine aussi ?
Oui, oui, oui.
Ouais, ouais. Donc, ça n'a pas donné des idées à la famille de revenir, au sens large, les parents, les frères et sœurs ?
La différence, c'est que dans la famille, tout le monde veut revenir.
Ouais.
Honnêtement, tout le monde veut revenir, mais je peux les compter sur les doigts d'une main, ceux qui osent faire le pas. C'est toujours ça le problème, c'est d'oser faire le pas.
Qu'est-ce qui freine ?
Honnêtement, je ne sais pas, la peur de laisser tout derrière soi et de commencer une nouvelle aventure.
Ouais.
Je pense que c'est ça. Moi, ça m'a vraiment pas fait peur, mais je pense que c'est ça qui est dans le conscient des gens. Oui.
Alors donc 2015, vous lancez votre premier business au Maroc. Aujourd'hui,
qui a pas été nécessairement une réussite.
Ouais, c'est vrai. Vous l'avez pas vécu comme un échec ?
Non, pas comme un échec, mais c'était pas une réussite. Pourquoi ? Parce que je me suis lancé voilà dans le nord du Maroc, dans la restauration Hilti, et c'est pas encore vraiment le moment, ce qui fait que voilà, on travaillait bien, etc., etc., mais sans plus. On a dû revenir un an après à ce qu'on fait déjà en Belgique, c'est-à-dire les fast-food. Mais voilà, c'était si je devais écouter mon entourage, après un an, ben, on m'a dit, écoute, t'as qu'à fermer et revenir chez toi. J'ai dit non. Donc, en l'espace de 2 semaines, j'ai réaménagé l'intérieur, redécoré, revu le menu, fait ce que je faisais déjà en Belgique. Et grâce à Dieu, ça fonctionne très bien aujourd'hui.
Et après, à part la restauration, vous avez lancé de nouveaux projets ?
Oui. Et là, c'était vraiment un parcours personnel. Je fais partie du cliché des hommes qui, une fois qu'ils se marient, bah, ils profitent des bons plats préparés à la maison, etc. Donc, j'ai pris pas mal de kilos. Et donc, en 2018, j'ai décidé de me reprendre en main. Et j'ai fait appel ici à un coach, Issa Al-Gharbi, qui est très connu dans le Maroc. C'est un athlète très connu. Et qui m'a aidé justement à me reprendre en main via un équilibre alimentaire, via une activité sportive. Et justement, on a fait connaissance au fil du temps. Et il a vu mon côté perfectionniste, mon côté challenger et entrepreneur. Et c'est à ce moment-là que justement, il m'avait donné certains compléments alimentaires que je devais prendre pour compléter mon apport journalier. Mmh. Voilà, parce que je faisais vraiment beaucoup d'activités physiques et avec mon emploi du temps, je n'avais pas nécessairement le temps de pouvoir manger tous les repas qu'il fallait, etc. etc. Parce que c'est paradoxal, hein, je faisais un régime, mais en même temps, je devais manger beaucoup, mais en petite quantité, ça demande des préparations, je n'avais vraiment pas nécessairement le temps. Donc, j'ai pris des compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires, c'est là que j'ai eu un petit problème et que j'ai eu un déclic. C'est que voilà, soit ça ressemblait à un médicament,
ouais.
Et c'était très bon, ou soit c'était un beau packaging, mais par contre, au niveau des ingrédients, au niveau, on n'avait pas beaucoup d'informations et c'était vraiment pas bon, quoi.
Et puis on là, dit que c'est parfois mauvais pour, c'est mauvais pour les reins.
Non, pas du tout, Ça c'est non, ça c'est un a priori. C'est d'autres produits qui sont pas bons pour les reins, pour okay. le foie, etc. Mais là, par contre, oui, il faut faire attention, comme n'importe quel produit ou même si on parle de chocolat, de bonbons, il faut faire attention
Bien
à
sûr.
Ce qu'on mange et lire la fiche nutritive. Donc c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Et c'est là qu'Issa m'a dit, écoute. T'as une formation en marketing, t'es un créatif, etc. Pourquoi tu lancerais pas ta propre marque? Et franchement, j'ai adoré l'idée parce que c'est, à l'instar, bon, c'est de ce que je fais dans la restauration, le côté créatif, on peut pas vraiment s'amuser de sortir un nouveau sandwich par saison, etc. Mais voilà, on est bloqué. Tandis que là, je voyais le potentiel et donc je me suis lancé. Par contre, je connais mes compétences. Et au niveau recettes, au niveau fiche technique, etc., je savais que j'allais avoir un problème. Donc, j'ai fait appel à mon cousin Nabil, qui lui est resté en Belgique. Donc, lui, il continue l'activité en Belgique. Je lui ai proposé le projet, je lui ai proposé la maquette. Il a adoré et c'est de là qu'on s'est lancé, quoi.
C'est important, justement, d'avoir d'être en famille pour travailler. C'est une bonne chose.
Je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais il faut connaître, chacun doit connaître son domaine de compétences. Et je ne pense pas que je serais là aujourd'hui si j'avais fait les choses tout seul. Pourquoi ? Ouais. Parce que justement, voilà, je suis bon dans tel domaine, pas nécessairement bon dans l'autre. Et il fallait que je fasse appel à quelqu'un. Ça pouvait être quelqu'un de la famille, ça pouvait être quelqu'un d'extérieur. Mais vraiment, le principal, je pense, c'est la communication et mettre les choses au clair dès le départ. Et après, ça va tout seul.
C'est ça. Et il faut accepter peut-être. Justement d'aller chercher les compétences ailleurs et pas vouloir tout monopoliser.
Oui, bien sûr, parce que vraiment, on peut aller à l'échec comme
ouais,
ça.
Oui, absolument.
Tandis qu'aujourd'hui, c'est une aventure qu'on partage et on est très heureux comme ça. Et franchement, c'est super.
Parce que les gens pensent en fait, en faisant tout seul, ils vont se faire plus d'argent. Ils vont économiser peut-être et se faire ensuite plus d'argent. Oui.
Je fais partie quand même des gens qui pensent qu'il n'y a pas que l'aspect
financier,
pas que l'aspect pécunier qui est financier qui est important. C'est vraiment l'aventure, c'est ce qu'on partage. De l'argent, si ça fonctionne, on va en gagner, mais il faut savoir avoir le kanaa, on va dire.
Absolument.
Et savoir partager. Donc, ça, c'est une valeur qui est quand même importante. Il n'y a pas que l'argent.
Alors, Ilyas Chami, si vous deviez justement donner le conseil de vie de l'entrepreneur que vous auriez tellement aimé qu'on vous donne avant de démarrer, ça serait lequel ?
De rien lâcher. Honnêtement, de rien lâcher. Parce que... et de croire en soi. Surtout, de rien lâcher, croire en soi et de se donner les moyens. Et que si on a vraiment la conviction que c'est un produit, que c'est une idée, que c'est un projet de vie, ben, il faut se lancer et pas écouter les gens. Vraiment. Pas écouter les gens parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais on va avoir énormément de gens qui vont vous dire, mais non, laisse tomber, ça va pas fonctionner, tu vas aller au Maroc, et attention, et beaucoup de mauvais conseils. Il y a très, très, très peu de gens dans l'entourage qui vont au contraire croire en vous et vous dire, vas-y, fonce, tu vas y arriver, ça va être génial, etc. Donc, c'est vraiment croire en soi et se donner les moyens.
Alors, en discutant aussi avec les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qu'elles viennent d'ailleurs ou qu'elles le fassent, enfin, qu'elles aient toujours vécu au Maroc, elles parlent de l'entrepreneuriat, croire en soi, mais en même temps, elles n'occultent pas le fait que la peur peut parfois venir parasiter, la crainte, la peur. C'est-à-dire, on croit en soi, ok, mais voilà, c'est pas... on peut croire à 100%, mais il y a peut-être cette part aussi de crainte. Est-ce que pour un homme, c'est la même chose? Est-ce qu'un homme... Non?
Ça fait vraiment partie de l'entrepreneur.
Ouais.
C'est que la crainte, elle est là tous les jours.
Oui. Donc, c'est légitime. Il ne faut pas avoir... Voilà, c'est ça.
Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a des moments où j'ai voulu laisser baisser les bras. Et c'est mon épouse ou mon associé qui m'a dit, écoute, continue, ça va aller. De même, des fois, mon associé, lui, veut lâcher prise. Mm. Et c'est moi qui le reprend, qui lui dit, écoute, on n'a pas fait tout ça pour rien, il faut rien lâcher. Mais c'est humain, c'est humain. C'est pas pour une femme ou pour un homme, au contraire, c'est humain.
Donc c'est normal, il ne faut pas avoir peur. Enfin, faut avoir peur. Avoir peur, c'est normal. C'est dire ne pas avoir peur, c'est pas possible. Faut pas avoir peur. Non, c'est normal d'avoir peur parce que c'est son gagne-pain en même temps.
Bah oui, exactement, exactement. On passe par des périodes très très dures, surtout au début. Mais voilà, la peur, c'est un trait humain.
Oui, absolument. Exact. Alors, en regardant en arrière, est-ce que vous êtes aujourd'hui l'homme que vous avez toujours rêvé d'être?
Oula, quelle question. on va dire que j'y suis presque.
Pourquoi elle fait peur, cette question, Elias, justement?
Pardon?
Pourquoi elle fait peur, cette question? Pourquoi elle dérange?
Parce qu'elle dérange pas, mais vraiment... On a tous des objectifs dans la vie, on a envie d'être de bonnes personnes et on ne sait pas si on fait toujours les bons choix. Et voilà, je me vois aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai accompli. Mm. Est-ce que je suis arrivé au niveau personnel et professionnel là où je voulais être? Pas encore. J'ai toujours à apprendre, j'ai toujours... m'améliorer, devenir une meilleure personne encore. Donc voilà, c'est pour ça que cette question-là, elle est un peu spéciale.
Est-ce que vous pensez un jour...
Je peux pas avoir la prétention de dire que ça y est, je suis parfait et que je suis arrivé au niveau ultime.
Non, absolument, je comprends. Mais à l'étape de la vie, à l'étape actuelle, est-ce que vous êtes satisfait?
Oui.
Voilà, on va dire les choses comme ça. Vous savez, comme quand on est sur une route avec les bornes, des kilomètres... À cette borne particulière, est-ce que vous êtes bien?
Bah oui, ma plus grande satisfaction, ma plus grande richesse aujourd'hui, c'est que j'ai une épouse merveilleuse et trois merveilleux enfants. Donc déjà là, j'ai accompli plus de les trois quarts de ma vie, bien sûr.
Exact. Est-ce que vous pensez un jour repartir en Belgique? Est-ce que c'est une possibilité?
Vraiment pas.
Non.
Peut-être dans un autre pays. Si vraiment ça ne va pas, je ne sais pas pour quelle raison ici, mais
ouais.
Honnêtement, je m'y sens très bien. Je suis installé à Tanger et la situation géographique, le cadre, vraiment tout me plaît ici. Donc je pense pas que je pourrais changer un jour de destination.
Et vivre votre troisième âge ici, vous le voyez bien?
Oui, parfaitement. Ouais. Oui. Ouais.
Avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire petits soucis de santé, etc.
Ça a fort changé. Hein. C'est un pays, franchement, qui m'a fasciné parce que depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, j'ai rarement vu un pays comme le Maroc qui s'est modernisé et qui s'est transformé à ce point. Donc, c'est comme au niveau du personnel. Aujourd'hui, on a quand même la chance de pouvoir leur avoir une mutuelle, une certaine sécurité sociale. Je sais que ce n'est pas encore parfait, qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là, mais je veux dire, on va vers le positif.
Oui.
Et c'est ce qui me plaît ici. Et c'est aussi pour ça que je dis qu'il y a encore tellement à faire dans tous les domaines confondus. Et qu'au contraire, on veut faire partie de on veut être la pierre à l'édifice, quoi, faire partie de ces gens-là qui essaient de contribuer au développement de leur pays et d'aller loin, quoi.
Alors, Ilyas Chami, merci infiniment d'avoir pris de votre temps et d'avoir été ma
vous,
version homme de femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Sidi. C'était un plaisir de discuter avec vous.
Un grand merci. Le plaisir est partagé. À très bientôt.
Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média et bien sûr en avant-première sur Média Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.